la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Sinon pas style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à tous, oui Valérie Trémolière, il n'y a que de prise Jack, bienvenue dans la 59e émission et première de l'année 2018, bonne année Louise.
Bonne année à tout le monde.
Ah, je t'ai pas branché, tiens, vas-y.
Ça commence bien, voilà. Bonne année à tout le monde, meilleurs vœux et de très bonnes lectures pour 2018.
Voilà, avec de très beaux ouvrages qui sont sortis, qui vont sortir, on va en parler dans cette émission, salut Popo.
Salut tout le monde et bonne année.
Bon, mais Valérie, ouais. On l'a déjà entendu.
Ah bon ?
Mais
ah
oui, on va ouais, te souhaiter une bonne année.
Mais c'est gentil, bonne année à vous aussi. Comme disait Brel, je vous souhaite des livres à n'en plus finir, des pages à lire et à relire.
Tu ne devais pas le dire en chantant.
Ouais. si, mais j'avais oublié de préparer mon acoustique musique à côté.
Tu fais de la poésie cette année ?
Non.
Si ?
Ah, ok. Oui.
C'est ce que tu viens de faire, en tout cas.
Oui, ça ne va pas durer, rassure-toi.
Et on est content parce qu'il neige. Et qu'on est au chaud. Si on était sur la route, on serait moins content. Hein, Louise, on l'a attendu ce matin.
Oui, moi j'avais envie de me lever avec de la neige partout et j'étais un peu déçue, mais là le temps semble se rattraper.
Et oui, on va rester bien au chaud et vous aussi à nous écouter avec un thème libre pour cette première année, pour cette première émission de l'année 2018. Hein. On s'est dit qu'on avait.
Oui, on est libre aujourd'hui. Et, voilà. Oui, et d'ailleurs, je voulais aussi dire que ma super stagiaire Héloïse était là pour l'émission. Comme ses copines écoutent peut-être l'émission, voilà. Elle est bien là, mais elle ne veut pas parler.
Oh. D'accord. Bon, ah ouais, on va faire des dédicaces après la pause. Tu vas nous dire qui tu veux qu'on dédicace cette émission. Et on salue aussi ton homme, Héloïse, qui
tu
nous écoute.
Tu ne sais plus comment il s'appelle.
Si, mais je ne voulais pas dire qui c'était. Les gens n'ont pas à savoir.
Monsieur A.
Monsieur A, oui, bon, de toute façon, on a dit Antoine. Donc voilà, que j'ai vu ce matin, qui nous écoute. Salut Antoine. Bon, émission libre, on te laisse commencer comme tu es une femme libre, Héloïse.
Oui. Oui.
Ben voilà. Alors, on te laisse nous présenter un premier
Alors,
livre.
Alors, je vais commencer vraiment sur les chapeaux de roue. Alors, il va falloir suivre, attention, parce que je vais présenter un livre qui s'appelle « Mauvais plan sur la comète » de Jean-Charles Chapuzet, qui est donc un journaliste. Ce n'est pas un roman, même si on pourrait croire, effectivement, vu la vie rocambolesque qui est racontée dans ce livre, mais c'est la vie de quelqu'un qui existe vraiment. C'est la biographie d'un personnage que vous connaissez peut-être si vous avez regardé les émissions Striptease à l'époque.
Oui.
Oui. Est-ce que vous vous souvenez de ce monsieur qui s'appelait Jean-Claude et qui construisait une soucoupe volante
Qui vivait avec sa maman.
Qui vivait avec sa maman et un perroquet empaillé.
Excellent.
Voilà. Vert cognac.
Ça fait rêver.
Ça fait Vert tout
cognac,
à fait rêver.
Comprends.
Et voilà. Et donc, en fait, Jean-Charles Chapuzet, qui est originaire de la même région que Jean-Claude Ladra, donc le constructeur de la soucoupe, est allé enquêter, en fait, sur ce personnage. Parce que c'est vrai que dans Striptease, il y a 15 minutes, c'est vrai que c'est très rigolo, c'est très touchant. On les voit tous les deux évoluer et croire dur comme fer à ce voyage dans l'espace. Et à cette soucoupe fabriquée, voilà, de manière assez improbable.
Artisanale.
Artisanale, effectivement. Et donc, voilà, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces 15 minutes d'émission, en fait ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce personnage tout à fait atypique ?
Et comment est née la rencontre ?
Comment est née la rencontre ? Comment est née, en fait, ce désir aussi de construire cette soucoupe ? Comment est-ce qu'il a embringué sa maman là-dedans ? Enfin, comment ça s'est passé ? Voilà. Donc, on découvre une histoire de vie, une histoire qui va passer par tous les stades. Nous, on va passer par tout... Mon micro aussi. On va passer par tous les stades de l'émotion. On va être triste, on va rire, on va être joyeux, on va être avec lui, on va être curieux. Et du coup, voilà, on passe. C'est une vie qui a des côtés très tragiques, comme vous vous en doutez un peu. Donc, ça commence par une enfance assez difficile, avec une mère très courageuse et une mère qui va devenir en fait un espèce de modèle pour lui parce que Son père était alcoolique et sa mère, à l'époque, c'était après, juste après la Seconde Guerre mondiale, elle a décidé de partir, voilà, de partir de la maison toute seule. Elle a volé un poney ou un cheval. Elle est partie, elle l'a vendu et avec l'argent, voilà, elle a essayé de se débrouiller avec ses enfants. Et elle a été poursuivie parce qu'on n'avait pas le droit de faire ça à l'époque, de quitter son mari comme ça, etc. Donc, ses enfants lui ont été pris et donc le petit Jean-Claude a été élevé dans un orphelinat alors qu'il avait une mère qui était tout à fait prête à l'élever. Et qui voulait l'élever, voilà. Et qui l'a récupéré alors qu'il avait 16 ans, voilà. Donc il a passé toute son enfance à traumatiser dans les orphelinats, voilà, un peu la tête de turc de tout le monde, de ses camarades. Voilà. Donc après, une fois que sa mère l'a récupéré, bah, c'était un grand jeune homme. Il est parti à Bordeaux, il s'est engagé dans la marine marchande. Il a découvert, il a été marin, il a voyagé aux quatre coins du monde. Voilà. Et à un moment donné, alors qu'il passait dans les Bermudes, dans le triangle des Bermudes, pendant la nuit, il a fait un rêve. Il a fait un rêve où quelqu'un lui parlait, et lui disait « Jean-Claude, il faut que tu construises cette soucoupe. Il faut que tu le fasses. » Voilà. C'était un espèce d'extraterrestre. Et du coup, Jean-Claude, ben, il ne s'est pas posé de questions. Il s'est dit « Mais en fait, c'est ça. Voilà, il faut que j'écoute cette voix et je vais le faire. » Donc, c'est quand même hallucinant. Donc, déjà...
Ouais, mais le fait que mais ça il... se passe dans le triangle des Bermudes,
oui,
c'est...
Ça met l'ambiance. Ouais. Ça...
Tout à fait. Et donc, là, il rentre chez lui et il fait des petits boulots, il ramasse de l'argent afin de... Toute sa vie est concentrée sur la construction de cette soucoupe. Donc, il l'a construit et son objectif, et là, je vais m'arrêter là après parce que je ne vais pas tout raconter, mais son objectif, en fait, est de rejoindre avec elle le triangle des Bermudes pour, en fait, voilà, pour revenir là où on lui a dit, construit là, et pour voir, en fait, ce qui se passe. Donc, et le truc hallucinant et que je ne savais pas et qu'on ne sait pas dans Striptease, c'est-à-dire qu'il fait embarquer la soucoupe dans un bateau, il l'amène jusqu'à Dakar. Jusqu'à Dakar.
Il n'est pas dans le triangle des Bermudes ?
Non, mais du coup, voilà, parce qu'il s'est dit, si je pars des côtes françaises, tout de suite, les gardes-côtes vont m'attraper et vont me ramener à terre. Je vais partir d'Afrique. Il part d'Afrique et il a passé plus d'un mois au large dans sa soucoupe. Dans sa soucoupe qui prenait l'eau.
Merde.
Il était couvert.
Mais là, c'est pas une soucoupe volante, c'est un bateau.
Dans sa tête, c'était tout à fait logique de la mettre sur l'eau et de retourner sur l'eau avec sa soucoupe dans le triangle des Bermudes.
C'est énorme.
Il a quand même fait des kilomètres et des kilomètres. Sa soucoupe prenait l'eau, donc il passait une demi-heure à dormir, une demi-heure à enlever l'eau de sa soucoupe. Où il avait pris des boîtes de conserve. Il a oublié l'ouvre-boîte. Alors... Il a mangé du poisson cru, il avait pris de quoi pêcher, il a mangé du poisson cru. Il était couvert de boutons avec le sel, il était vraiment très mal, vraiment très très mal. Il a croisé des bateaux, des fois qui voulaient le ramener de force. Oui. Il a dit non, je continue, mais vraiment bien en tête, je continue, je suis
pas bien. Mais donnez-moi l'ouvre-boîte.
Il a perdu 20 kilos, enfin voilà. Et juste au bateau, il leur donnait des lettres pour sa maman. Voilà. Ah. Et quand il a vu venir la mort, il a lancé une fusée de détresse et un bateau espagnol l'a quand même rapatrié. Mais le type a quand même passé plus d'un mois dans son espèce de soucoupe en pleine mer. Voilà.
Excellent.
Il est rentré chez lui et il s'est dit, la mer, c'était pas ça. Je reconstruis une soucoupe, cette fois, qui va s'envoler. Voilà. Et donc, j'en suis là. Et donc, il y a plein d'autres choses, en fait, sur ce monsieur qui sont hyper touchantes, hyper drôles. Enfin, c'est carrément... Enfin, c'est un récit de vie. C'est un vrai héros, ce gars, un héros malgré lui. Un héros populaire, je dirais. Moi, j'adore.
Donc là, il est en train de construire une nouvelle soucoupe, hein, si je t'ai bien suivi.
Mais tu peux pas spoiler après.
Mais non, mais elle vient de le dire, je spoil rien.
Du livre,
Alors, quand il était parti, c'était dans les années, je sais plus, dans les années 80, je crois. Ouais. Donc du coup, là c'est quand même le journaliste a passé beaucoup d'entretiens avec lui et il avait terminé avec les soucoupes. C'était un vieux monsieur qui était dans son appartement HLM à Angoulême. Et qui racontait sa vie, en fait. Mais à base de photos, à base de... Voilà, c'est tout à fait véridique. Par exemple, le périple aussi en soucoupe dans la mer. Moi, j'ai vérifié aussi, mais à l'époque, ça avait dans les journaux, tout le monde en avait parlé. Il y avait des témoignages des bateaux qu'il avait croisés à Dakar, tout le monde. Enfin, c'était assez hallucinant. Et d'autant plus hallucinant que lui, ça lui semble normal, ce monsieur. Mais nous, on n'y croit pas, quoi. Voilà, c'est et donc que... super histoire.
Voilà, en plus, on se demande souvent si ces émissions sont des comédiens, sont des vraies personnes. Là, on voit en l'occurrence que c'était bien vrai.
Non, et que c'est même pire que ce que c'est même pensait. Pire.
Valérie.
Et l'auteur, du coup, qu'est-ce que, comment il a eu envie de alors, prendre ce témoignage?
Alors, l'auteur, en fait, comme je disais, c'est un journaliste d'investigation. Il a fait pas mal de reportages à travers le monde et en fait il a grandi dans la région de Jean-Claude Ladra et là-bas évidemment c'était une petite star locale, tout le monde allait le voir le coup chez lui et voir la soucoupe etc. Et il y était allé quand il était ado, le journaliste, comme tout le monde, je pense, de la région. Et ça, c'est un personnage, en fait, qui l'avait vraiment marqué, qui l'avait touché. Et il s'est toujours demandé, en fait, ce qu'il y avait derrière. Et un jour, il a sauté le pas, il l'a recontacté et il lui a demandé s'il pouvait écrire un livre sur lui. Voilà.
Super.
Et quelle est cette belle maison d'édition avec un très beau livre?
Oui, c'est, en plus, le livre est très joli. Et donc, c'est les éditions Marchiali, qui est une toute petite maison d'édition qu'on ne connaît pas trop encore.
C'est la première fois qu'on en parle.
C'est la première fois qu'on en parle, oui. Voilà, mauvais plan sur la comète.
Merci Héloïse. Popo, dis-nous, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui?
Alors, moi, je vous présente... je commence par avoir une petite question. Est-ce que... par quoi finissent tous les contes, déjà? C'est quoi vos... La fin d'un conte.
Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
Eh oui.
Mais pas trop.
Et craque mon conte et zakabat.
Et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui vécurent pas heureux et eurent beaucoup d'enfants? Parce qu'il y en a qui nous laissent en plan comme non, ça.
On n'écrit pas sur eux. C'est trop triste, Pauline.
Ah bon? Mais le petit pousset alors?
T'as plusieurs versions.
Eh ben, j'ai la suite, moi, du petit pousset.
Ah oui.
Et je sais ce qui se passe après. Voilà. Et donc, ça, cette suite, elle est racontée dans Le petit pousset. C'est moi.
Oh merde, c'est lui.
Ne sois pas vulgaire, Valérie. Pardon. Tu viens de dire un gros mot.
Deux fois en plus que
ouais,
je le dis.
Deux fois.
Je me repentis.
Sinon, on ne fera pas la promotion de ton spectacle pour qu'on te rencontre.
Merci.
Hein, attention. Alors oui, qu'est-ce qui lui arrive à ce petit poussé? Quel est ce livre?
Alors, tout commence par une lettre de l'ogre. L'ogre écrit au petit poussé et il lui écrit parce qu'il ressent une sorte de nostalgie. Je pense que ce qu'on ressent, c'est que ses bottes lui manquent un peu puisque Poussé lui a volé ses bottes de 7 lieues. Et donc, voilà, c'est ses petites bottes lui manque, il veut en prendre des nouvelles. Est-ce qu'elles sont à la taille du petit poussé? Est-ce qu'il en profite bien? Et puis bon, il mine de rien, il lui pose la question, mais est-ce que tu t'es pas pris des petites montagnes ou des petites... Parce que bon, c'est un peu dangereux les bottes. Moi, ça m'est arrivé de me cogner dans ce genre de choses parce que je me contrôlais pas. Bref, il écrit voilà la première lettre à Poussé qui va se précipiter pour lui répondre, lui donner des nouvelles de ses bottes. Commence la petite correspondance entre Poussé et l'ogre. Et finalement, l'ogre, on se rend compte qu'il est un petit peu malheureux parce qu'il vit avec son ogresse, bon, qui s'occupe bien de lui, mais depuis qu'il a plus ses bottes, déjà, les enfants n'arrêtent pas de se moquer de lui. Parce qu'évidemment, sans ses bottes, il est beaucoup moins impressionnant, il peut plus poursuivre les enfants. Alors, ils viennent jusqu'à sa porte pour frapper à la porte et se moquer, lui dirait hey, l'ogre, c'est de la chair fraîche, et puis il se barre en courant, et voilà. C'est l'horreur. Bref, de son côté, petit poussé est pas forcément super heureux non plus. Bon, en même temps, il est issu d'une famille qui est pas très sympa. Hein. On connaît tous ses parents qui l'ont abandonné dans la forêt.
C'est vrai.
Ses frères sont pas très top non plus. Hein. Une fois rentré à la maison, bon, petit poussé, il ramène quand même de l'or, des bottes de 7 lieues. Mais bon, il est toujours loin du feu, le dernier à manger. Bref, ils sont tous les deux un peu seuls. Et du coup, ils vont se lier d'amitié à travers ces petites lettres. Avec toujours cette envie de se revoir, de repasser un moment ensemble. Mais évidemment, s'ils se revoient, le gros problème, c'est que l'ogre va manger Poussé.
Est-ce qu'il ne peut pas se retenir?
Non.
Il veut se venger aussi un peu quand même. Il le dit peut-être pas, mais...
Moi, je n'ai pas ressenti ça. Je n'ai pas ressenti de rancune. Il est surtout extrêmement gourmand. Il ne contrôle pas son appétit. Et Poussé a beau être tout petit et tout maigrichon, un petit enfant qui sent bon la chair fraîche, c'est irrésistible. Voilà, donc c'est l'histoire super... c'est super malicieux, c'est super joyeux. C'est des lettres, donc ça paraît pas facile d'accès pour des enfants, mais finalement, c'est plein de vie, il y a plein d'humour.
C'est pour les enfants, hein?
Ah oui, c'est pour les enfants.
Pas de lecture, de second degré de lecture pour les adultes, si?
Oh, il y a... C'est agréable, je pense, pour un parent de le lire à son enfant. Il prend plaisir. Il n'y a peut-être pas forcément un second degré de lecture, Mais il y a de l'humour qui va toucher les adultes aussi. Ça va être un bon moment. Ça va pas être un livre casse-pied à lire pour les parents. Ça, il y a pas de souci.
C'est un gros livre, hein. Tu dis les enfants. On est sur quelle tranche d'âge? Ça m'a l'air assez grand.
Oui, c'est assez, assez grand. Tu peux le lire sur plusieurs, pour plusieurs soirées.
Tu lis une lettre, une réponse chaque soir.
Ouais,
c'est pas mal, je trouve.
Non, je pense que ça peut attaquer assez petit. C'est assez simple comme histoire. Ouais. L'humour est accessible. Il y a de l'humour très, très facile. Voilà, je me suis cognée dans une montagne avec mes bottes à 2-3 ans. Je pense que ça les fera rire. Hein. Et il y a des blagues pour les un peu plus grands, je pense aussi.
On va le tester sur notre stagiaire Héloïse pendant la pause musicale. Voir si ça lui plaît, on va lui lire.
Il faut être sûr qu'elle ait assimilé le petit poussé tome 1.
Oui, il faut avoir la base du tome 1 parce que voilà, il y a en fait toute une histoire qui se monte et par exemple la famille de Pousset va profiter de la célébrité naissante de leur enfant qui a vaincu l'ogre, etc., pour monter un commerce de petits cailloux blancs. Voilà, on produit dérivés de l'histoire de Pousset. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sortent de l'histoire de Pousset. Et voilà, il faut avoir peut-être, faut connaître un peu l'histoire du petit Pousset à la base.
Oui, mais
hein.
Ça, c'est vrai que ça peut se résumer facilement. Oui, c'est comme pas mal de contes, on peut aussi. Effectivement, le résumé. Et c'est vrai que ce détournement de conte, etc., ça m'a fait penser au dessin animé Shrek, un peu,
oui,
où il y a des choses
côté,
qui rappellent la modernité et qui sont ajoutées à des contes classiques. Et c'est très chouette, ce livre. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Ah oui, c'est très, 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 très sympa.
Par contre, j'imagine que c'est pas très, très original, quand même. Ça a dû être fait, ça. Imaginer la suite du petit poussé, voire même une correspondance entre l'ogre et le petit poussé. Non, ça s'est jamais fait. Parce qu'on voit par exemple Le Petit Chaperon Rouge, il y a énormément de livres,
d'histoires
qui ont été faites. Non, Le Petit Poussé, c'est...
Moi, j'en ai jamais vu, mais après, ça doit exister, mais sous cette forme-là de correspondance, et je pense pas. Et après, il faut dire aussi que c'est très qualitatif quand même. Enfin, c'est pas du tout classique aussi dans l'écriture, dans les idées.
C'est
vraiment chouette. Hein.
Les illustrations... Elles sont sympas, elles sont colorées, elles ont un petit côté vieillot qui est chouette. Chaque illustration est un cadre un peu, je sais pas comment vous donner les explications, mais ça fait style conte traditionnel avec un petit côté moderne comme tu le dis, Héloïse. Donc non, franchement, moi je trouve que c'est vraiment une réussite parce que je pense que c'est un bon moment pour tout le monde, la lecture de ce conte. Il y a plein de passages où ils font en fait le petit Pousset lit les lettres à l'occasion des veillées en famille, les lettres de l'ogre, il les lit en famille et je vois très bien la reprise de la veillée, lire le petit conte le petit Pousset c'est moi en famille devant le feu, ça va très très bien. Il y a un côté à la fois très traditionnel et très moderne, plein d'humour, c'est super ingénieux, moi j'ai trouvé ça extra. Très très sympa.
Il est dans la liste pour le prix sorcière de cette année.
Ah oui, donc
le prix jeunesse sorcière. Voilà.
D'accord. Ok, maison d'édition, rappelle-nous.
Casterman.
Allez, Casterman, l'homme castor. Valérie.
Ben là, la
en parlant de castor, je n'ai aucune transition.
D'accord, je pensais parler de sorcière.
Non.
Mais Pauline et Louise m'ont fait la transition en parlant de sorcière, sorcière chat. T'as parlé de Jean-Claude qui habitait à Angoulême. On parle de BD. Puis je crois que Ludo tout à l'heure tu parlais des mangas. Tu disais qu'on parlait pas souvent de mangas. Eh ben bim, voilà. J'ai donc en plein festival d'Angoulême une BD manga qui parle de chat. Voilà, donc c'est
bravo.
Vraiment alors une particularité.
Est-ce que cette BD concourt pour le festival cette année?
Je ne crois pas.
Ah, d'accord.
Je ne crois pas.
Très bien.
En fait, c'est alors pour les
parce que moi j'en ai une, mais bon.
C'est vrai.
Moi, je fais les choses bien.
Le boulot comme il faut. Hein.
Je prends pas n'importe quelle BD, tu vois.
Voilà. Et ben moi justement, j'ai pris au hasard Balthazar, c'est-à-dire que je suis montée à la bibliothèque. J'avais envie de lire une BD pour me détendre un peu l'esprit parce que j'étais dans des livres un peu gros, un peu lourds, et j'ai pris cette BD mais vraiment au hasard. Et quand j'ai voulu l'ouvrir, j'ai dit, ben mince, elle est à l'envers. Voilà. Donc forcément, je dis, zut, un manga. Mais un manga avec des chats, c'est étonnant. Et en fait, ce livre, donc, c'est Les chats du Louvre de Taiyo Matsumoto. Je ne sais pas si toi, Héloïse, tu le connais.
Taiyo, oui, je connais.
Alors, c'est pas tout à fait les mêmes. Lui, en fait, c'est un dessinateur donc, de manga japonais qui a quand même 50 ans et qui a pas mal de livres à son actif, notamment Amer Béton. Voilà, qui en japonais était Tekkon Kinkurito, voilà.
Et donc, il était spécialisé au départ dans les mangas, mais sur le thème du sport. Il a publié des choses sur le ping-pong, sur la boxe, sur le baseball. Et là, en fait, il est venu, donc il a eu le prix Strait et son éditeur l'envoie donc en France pour faire un manga sur le sport, sur le Paris-Dakar. Et là, il découvre Mébus et Illumination. Il se dit, il faut que je fasse une BD de style européenne, mais avec ma touche à moi. Donc, il a écrit Les Chats du Louvre. C'est vraiment, alors je ne sais pas si on le qualifie de BD ou de manga, ou de BD manga.
Enfin, oui, non, c'est un manga, effectivement. Oui, à partir du moment où ça se lit dans le sens japonais, on peut dire que c'est un manga.
Okay, donc c'est un manga avec un dessin, mais alors hyper beau, hyper romantique. Et l'histoire se passe au Louvre. C'est une fois que le musée ferme, une des guides donc est persuadée pendant sa visite d'avoir vu un chat dans le Louvre, ce qui est assez improbable vu la sécurité qu'il y a dans ce musée. Et en fait, on découvre que le gardien du musée a tout en haut, dans le toit, un élevage de chats. Mais il y a des tonnes et des tonnes de chats. Et il est en train de former un nouveau guide. Donc c'est Marcel de mémoire, ou Marius, je ne sais plus. Il est en train de former un nouveau guide. Et le nouveau guide est un peu bloqué au départ en disant « Attends, c'est complètement illégal d'avoir des chats. » Et notre guide, il dit ben non, notre conservateur, pardon, il dit ben non, les chats étaient là avant nous, quand le Louvre était un château. Ces chats-là, ils sont là depuis très longtemps, il y a une histoire. Et notamment, il y a un des chats qui est un peu plus mystérieux que les autres, qui s'appelle Flocon. Et on découvre très vite que Flocon, en fait, qui est un magnifique chat blanc, est un passe-tableau.
Mais qu'est-ce donc qu'un passe-tableau ?
Un passe-tableau, c'est comme un passe-muraille, sauf qu'au lieu de passer à travers les murailles, bah, il a le pouvoir de passer à travers les tableaux qui sont exposés au Louvre. Donc il y a toute cette intrigue, je ne peux pas aller plus loin sur l'histoire du livre, sinon je vais tout spoiler. Mais il y a ce côté fabuleux un petit peu, parce qu'autant le dessin est très classique, et moi honnêtement j'ai cru une histoire de chat. J'ai dit « Oh, des chats !» Non, et en fait il y a ce côté vraiment japonais où on revoit cette petite touche un peu de folie dans l'histoire. Avec ce chat tout mignon qui fait que disparaître dans les tableaux et à qui il arrive des aventures, tout en gardant ce qu'on ressent en fait dans le Louvre, hein, enfin le côté très classique, et ça donne une super histoire et un premier tome 1 qui fait qu'on est très impatient de voir le tome 2. Voilà. Donc je pense que ce sera pas pour demain vu que celui-ci est sorti en novembre 2017. Je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu.
Mais quand tu dis manga, je pense que les gens pensent petit format, type livre de poche.
Ah oui, non, là, c'est un grand livre, c'est A4.
Hein, ouais, c'est un beau livre.
C'est une belle grosse BD. Ouais. Après, il n'y a pas de grand texte, hein, il n'y a vraiment que des bulles. Les dessins sont magnifiques. C'est
en noir et blanc.
Ouais, tout est en noir et blanc. Les émotions des personnages sont super. Parfois, il y a un personnage humain qui est grimé en chat, comme s'il mettait une combinaison Pocoyo. C'est vraiment... voilà, il y a cette touche japonaise. Et du coup, j'ai regardé sur Internet la couverture du livre qui est sorti au Japon. C'est la même, sauf que le titre est écrit forcément en japonais. Et ça apporte un peu plus. C'est un peu le seul truc. Je regrette qu'ils aient pas gardé le titre du livre en japonais, en le sous-titrant éventuellement.
Ouais. Après, déjà que c'est vrai que comme ça fait peur aux gens de lire à l'envers, si tu mets en plus un titre japonais, je pense vendre, ça doit être assez compliqué.
Là, je l'ai trouvé dur à lire en fait en manga. Ouais. Parce que justement, j'avais lu que des mangas, des histoires de personnes. Mmh. Et là, il y a quand même deux histoires. Enfin, deux histoires en un. Et j'avais du mal chaque fois, mon esprit, j'allais dire occidental, avait du mal à repartir.
Oui, il faut s'habituer, c'est sûr. Mais je trouve ça important aussi de faire l'effort. Je sais pas, ça doit apporter quelque chose.
Oui, puis bon, il faut respecter aussi l'auteur qui publie, qui travaille dans ce sens-là. Et ils auraient pu, je pense, l'éditer dans l'autre sens, mais je pense que si ça avait été édité dans l'autre sens, j'en aurais peut-être pas parlé aujourd'hui parce que j'aurais pas eu cette surprise et j'aurais peut-être moins de curiosité à en parler.
Mmh. Voilà. Et tu vois, ça me fait penser, en parlant de musée de chats, à l'Ermitage, le grand musée de Saint-Pétersbourg qui est vraiment beaucoup plus grand que le Louvre et qui est énorme, ce musée. Et en fait, eux, ils ont des chats, mais ils les acceptent tout à fait. Et c'est le musée de l'Ermitage qui les nourrit. Il y a une personne qui s'en occupe, etc. Et donc, ça fait vraiment partie du patrimoine du musée. Donc, c'est rigolo. Ça fait penser.
Ah, mais il y a peut-être un écho.
Ils chassent les souris aussi. Les chats. Un intérêt pour les réserves de musée.
Là, il y a peut-être un côté plus métamorphose. Enfin, l'âme des anciens dans le chat. Mais voilà. Pardon, je reparle en face du micro.
Et c'est chez qui ?
Eh bien, c'est chez Futuropolis. Et celui-ci, c'est Louvre Édition. Voilà.
Merci Valérie.
Et avec plaisir.
Pour cette bande dessinée qui manga. Ne sera pas manga, qui ne sera pas au Festival d'Angoulême, qui se tient en ce moment même.
Contrairement à ton livre, qui, je le sens, doit être au festival.
Ah, exactement.
Sera-t-il primé ?
Je ne sais pas, car l'auteur a déjà été primé. Donc je ne sais pas si tu peux être primé plusieurs fois, comment ça se passe, oui. En plus, l'auteur a été primé en 2005, donc ça fait quand même 12 ans.
On est toujours à temps d'y aller, là, en Angoulême.
Avec cette neige, je ne pense pas. L'auteur, c'est Marguerite Aboué, qui nous vient d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui a été primée donc le prix du premier album au Festival d'Angoulême de 2005 avec Aya des Yopougons. Yopougons, c'est ça. Et d'ailleurs, elle a travaillé avec Mathieu Sapin. Est-ce que c'est le Mathieu Sapin qu'on connaît qui est venu à la librairie,
tout à fait,
la lorgnette?
Oui, ils ont travaillé sur Akissi, qui est une BD jeunesse.
D'accord, frère de Guillaume Sapin de La Nouvelle Dimension à Florac.
Tout à fait.
Ah bon ?
Excellent. Et oui.
Ah ben ouais.
Tu vois, t'en apprends.
Ben c'est fabuleux.
Marguerite Aboué, donc, qui nous sort cette année pour le festival, enfin qui le sort et qui est au festival, Commissaire Kouamé, un si joli jardin, et l'auteur, donc, je vous l'ai donné. Pour le dessinateur, que je ne connaissais pas, qui dessine très bien, c'est Donatien Marty. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît.
Marie.
T'as vu, je fais des pièges, elle connaît. Donc tu le connais alors Ou tu l'as vu sur la pochette ?
Je le vois, là, en fait, tu m'offres la couverture aux yeux, là, donc je ne fais que lire et corriger tes fautes.
D'accord, mais merci. Il a écrit le premier bal d'Emma, il a dessiné, pardon, Les Derniers Dinosaures ou Que la Bête Fleurisse, il nous vient des Arts Décoratifs de Strasbourg. Et donc là, notre amie Marguerite Aboué lui a fait dessiner un peu sur les faubourgs d'Abidjan, car l'histoire se passe à Abidjan. C'est un polar qui commence avec le président de la Côte d'Ivoire qui explique que la jeunesse est corrompue, qu'elle est en train de faire des manifestations, c'est pour piller, pour voler. Voilà, on peut faire le parallèle avec ce qui se passe en Afrique dans certains pays, sauf que la jeunesse fait pas ça juste pour piller, pour voler, c'est un peu pour essayer d'enlever ces dictateurs qui sont au pouvoir depuis des décennies, voire plus. Et donc la solution pour rétablir le calme dans ce pays, dans cette Côte d'Ivoire, c'est de nommer le commissaire Kouamé à la tête des forces du pays, sauf que le commissaire Kouamé arrive et en même temps qu'une affaire, car il y a un meurtre qui se produit, un meurtre qui n'est autre que celui du célèbre magistrat qui s'appelle Traoré Compliqué et qui en plus est un ami commandant Kouamé. Donc le commandant Kouamé, bien sûr, prend ça à cœur en se disant il faut que je trouve à tout prix, avant de commencer mes fonctions pour établir l'ordre du pays, de trouver les assassins de cette personne. Personne n'a rien vu, l'enquête doit rester discrète, hein, sous peine de défrayer la chronique, c'est quand même au magistrat. Donc il est accompagné d'Arsène, son fidèle adjoint, Arsène, homme blanc, qui nous raconte un peu l'histoire. Lui parle à la première personne. Et il part traquer les suspects en tout genre qui n'ont qu'à bien se tenir, car toutes les tortures infligées par les deux policiers sont aussi incongrues qu'efficaces, car notre cher ami Kouamé a tous les droits pour restaurer l'ordre. Donc ça, c'est drôle. Hein, ça,
c'est drôle. Enfin, je sais pas, tu parles de tortures, de meurtres. Ça fait pas rire.
Voilà.
Et la couverture, on dirait que c'est drôle. Oui. Et en fait, quand tu en parles, on dirait pas trop. Hein.
Et bien, en fait, voilà. Voilà, c'est assez drôle parce que les tortures, on n'en voit pas trop. C'est pas extrêmement violent. C'est drôle. Notre cher ami Arsène a un grand amour des voitures. Donc, il a que des petites voitures, des Sim Camille, des choses comme ça. Donc, tout le long, toutes les pages, à chaque fois qu'il va à un endroit, il change de voiture. Il rentre pas dans la voiture. On voit les bosses de leur tête qui sortent. Ils sont obligés de commander des radiateurs chez Conforama parce qu'ils doivent attacher les suspects aux radiateurs et donc ils en ont jamais assez. Et on voit les gens à Conforama qui disent mais qu'est-ce qu'ils font ces Africains avec tous ces radiateurs, c'est pas possible. Donc c'est quand même assez drôle, voilà. Et c'est une vraie enquête, on se demande qui est l'auteur, il va dans les bas-fonds d'Abidjan, c'est extrêmement bien dessiné. Donc on voit que Marguerite Aboué est ivoirienne et donc elle a dû donner des indices, des informations à Donatien Marie pour qu'il dessine vraiment ce qu'est Abidjan, son Abidjan à elle, j'imagine. Et donc ouais, c'est un bon polar, c'est drôle, c'est vivifiant, c'est dynamique. Ça marche extrêmement bien. Voilà, les traits du dessin sont assez fluides. Voilà, rien à dire de plus, sinon de vous inviter à si vous aimez les polars, à acheter ce livre Commissaire Kouamé, Un si joli jardin, aux éditions Gallimard.
Et donc peut-être qu'à Angoulême, il aurait le prix du SNCF du polar aussi, c'est possible.
C'est possible. Nos amis, Valérie, mais écoute, SNCF.
C'est ça.
Quand on y était allé, on était allés les voir.
Ceux de la SNCF ?
Ouais, la nuit, mais c'était fermé.
Mais je me souviens, tu vois, des éboueurs, des gendarmes, des pompiers.
Et il y avait le prix SNCF, mais ils ne voulaient pas nous faire rentrer.
Ah, mais exact, oui. C'est pour ça qu'on a été voir le japonais après.
On n'acceptait pas.
Sinon, vous pouvez aller à Angoulême et aussi passer un séjour normal et rencontrer des auteurs de BD.
Ah, mais on en a rencontré le lendemain. Si on ne nous avait pas dit que ça commençait la veille alors qu'il n'y avait rien la veille.
C'est vrai, on nous a induit en erreur. Allez, mais pour la peine, on va écouter un morceau de Snoop Doggy Dogg tiré de son premier album, n'est-ce pas, Héloïse ? Allez, c'est parti.
Good morning, boys and girls. I'm your substitute teacher. My name is Mr. Butterworth. The topic for today is what you would like to be when you grow up. You, over there in the jean shirt, what you want to be when you grow up?
I would like to be a police officer.
All right, that's a pretty good profession. You over there in that black shirt, what you want to be when you grow up?
I would like to be a fireman.
All right, that's a pretty good profession too. Hey, you in the back with those French braids, what's your name?
My name is Snoop.
All right, Snoop, what you want to be when you grow up?
I want to be a motherfucking hustler. You better ask somebody.
This is for the G's, and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's. This is for the G's, and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's.
Freeze. At ease. Now let me drop some more of them keys. It's 199 Trey, so let me just play. It's Snoop Dogg, I'm on the mic, I'm back with Dr. Dre. But this time, I'm gonna hit your ass with a touch to leave motherfuckers in the days fucked up. So sit back, relax, new jacks get smacked. It's Snoop Doggy Dogg, I'm at the top of the stack. I don't black for a second, and I'm still checking. The dopest motherfucker that you're hearing on the record is me. You see, S-N-O-O-P, D-O-double-G-Y, the D-O-double-G. I'm fly as a falcon, soaring through the sky. And I'm high till I desire. So check it, I get busy, I make your head dizzy. I blow up your mouth like I was Dizzy Gillespie. I'm crazy, you can't phase me. I'm the S, oh yes, I'm fresh. I don't fuck with the stress. I'm all about the chronic, bionic, you see. Every single day chillin' with the D-O double G's. D-O-U and D, that's my clique, my crew. You fuck with us, we got to fuck you up. I thought you knew, but yet you still. You wanna get real, now it's time to feel. You say chill and feel the motherfucking realism. Snoop Doggy Dogg is on the mic, I'm hitting hard as steel, nigga.
This is for the G's, and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's. This is for the G's, and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's.
How many hoes in your motherfucking group? Wanna take a ride in my 7-8 coupe, DV. Chill as I take you on a trip where them niggas ride and slide. You know about the east side, nigga. Just like myself, here to show you where it's at. With my hoes on my side and my strap on my back. Papers I stack daily, and Death Row is still the label that pays. But you know how that go, we flow toe for toe. If you ain't on the road, fuck you and your hoe. Really though, so check it, it's Snoop Doggy Dogg on the solo tip, steel clocking, gripping. Don't really give a shit about nothing at all, just my dog. Stepping through the fog and I'm still gonna fade them all. With the gangster shit that keeps you hanging. How many hoes in 94 will I be banging? Every single one to get the job done. As I dip, skip, flip right back to 2-1. When the sun be shining and I be rhyming, it's me, Snoopy O-double-G, and I'm climbing.
This is for the G's, and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's. This is for the G's, and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's.
I come creeping through the fog with my sagging deuce. Eastside Long Beach in a 7-8 Coupe EV. I'm rolling with the G-Funk, bumping in my shit, and it don't quit. So drop it on the one, motherfucker, put together that sick. A nigga with a grip of that gangsta shit. With the Eastside hoes on my motherfucking dick. And the Compton niggas all about the set trip. Swing it back, bring it back just like this. And if you whip my shit, then blaze up another split. And keep the motherfucking blunt in your pocket low. Cause Doggy Dog is all about the zigzag smoke. See, it's a West Coast thing where I'm from. And if you want some, get some. Bad enough, take some. But watch the gun by my side. Because it represents me and the motherfucking Eastside. So bow down to the bow wow, cause bow wow, yippee-yo, you can't see my flow. My shit is dope, original, now you know, and can't no hood fuck with death, wrist up.
This is for the G's, and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's. This is for the G's, and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's.
Et on est reparti, un bon vieux Snoop Doggy Dog. Et on salue Diana et Mélina qui nous écoutent, hein, qui sont par là. On va balancer quelques anecdotes là. On cherche des infos là.
Non, pas les photos. Je suis pas d'accord. Tu les mets pas sur.
Je n'en ai pas, Valérie. Tiens, vu que tu parles, Valérie, on va donner l'antenne à Héloïse.
Voilà. Très bien. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va parler de? On va peut-être parler du club de l'ours polaire. Stella et les mondes gelés. Donc c'est le tome 1, il vient de sortir. L'auteur s'appelle Alex Bell. C'est son premier roman jeunesse. Elle a déjà écrit des romans adultes. Mais voilà, donc là c'est son premier roman jeunesse. La couverture est tout à fait sympathique, tout comme le titre. Moi j'étais hyper attirée par le titre, le club de l'ours polaire. Ça fait un peu
vieux
club d'explorateurs. Et sur la couverture, on a une boussole avec des dessins tristisés de montagnes, de bateaux, d'ours, de flocons de neige. Enfin voilà, c'est vraiment sympa.
Ça fait les Royaumes du Nord un peu,
ça
la couverture.
Ça fait tout à fait les Royaumes du Nord sans pour autant vraiment copier quoi quand même. Donc voilà, donc je me suis lancée dans la lecture de ce petit livre ado. Je dirais à partir de 12-13 ans, même 10 ans, ça passe tout à fait pour les bons lecteurs. Hein. Et donc du coup, on rejoint Stella qui... Stella, son papa adoptif est un grand explorateur, donc il fait partie de ce club de l'ours polaire. Il y a différents clubs d'explorateurs dans ce monde-là. Il y a le club du calamar géant qui explore plutôt les mers, le club de l'ours polaire donc, qui explore... les royaumes gelés du monde. Après, il y a le club du désert, etc. Voilà. Mais donc, son père adoptif a trouvé Stella dans le royaume du Nord, dans le royaume gelé. C'était un petit bébé qui était abandonné, un petit bébé tout blanc et tout blond. Et donc, il a recueilli cette petite fille, il l'a élevée dans une maison assez incroyable où il y a des mini-dinosaures, où il y a un ours apprivoisé, où il y a des choses volantes, où il y a des caramels à la pastèque. Enfin voilà, tout plein de choses, une maison rêvée quoi. Et donc elle a grandi là-bas et en fait elle veut qu'une chose en fait, c'est faire comme son papa adoptif, c'est-à-dire qu'elle l'admire et elle veut devenir exploratrice. Sauf que les règles de ce monde ne sont pas très cool envers les filles. C'est-à-dire que les filles n'ont pas le droit d'intégrer les clubs d'explorateurs. Donc c'est la tradition, voilà. Donc elles pestent
trop
avec ça.
Trop pourri.
Voilà, c'est pourri, effectivement. Et donc, en tant que bonne ado qu'elle est, Stella râle à longueur de temps avec ça. Elle n'est pas gentille avec son papa, etc. Et elle veut vraiment partir avec lui. Il se trouve qu'un jour, par un concours de circonstances, voilà, il n'a pas le choix. Il part, il l'emmène avec elle. Et il va imposer Stella au club pour l'expédition. Donc voilà, elle est partie sur un bateau, qui, ça va durer une dizaine de jours, un peu comme la soucoupe.
C'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'elle a croisé notre ami Jean-Claude?
Ça aurait pu. Et donc elle part en exploration avec tout un tas d'imminents chercheurs et explorateurs qui ne sont pas très contents qu'elle soit là, mais elle va essayer du coup de faire ses preuves. Et donc... il y a des jeunes de son âge aussi sur le bateau. Et à un moment donné, quand ils arrivent là-bas, les chiens de traîneau s'emballent. Il y a un yéti géant en fait, qui arrive. Et les groupes sont séparés. Et son traîneau, avec donc, les jeunes de son âge, et séparés du reste du groupe. Ils vont devoir se débrouiller seuls et faire leurs preuves seuls. Ils ont chacun quelques pouvoirs. Il y en a un qui a le pouvoir de guérir, un autre qui a le pouvoir de faire apparaître des choses, mais comme ils sont encore apprentis, en fait, il y a des fois des choses qui loupent. Voilà, donc du coup, ça va être cette exposition un peu bancale qui va réunir tous ces jeunes dans un univers assez hostile aussi. Et c'est très sympa, c'est hyper prenant, c'est très sympa. Et peut-être que Stella va découvrir d'où elle vient aussi.
Et elle a un pouvoir, voilà. Stella, elle ?
Alors pour l'instant, elle ne le sait pas. En fait, elle ne sait pas, elle sait pas quel pouvoir elle a, mais elle en aura un, ouais. Effectivement.
Il y a une suite de prévue, c'est
bien sûr, oui. J'espère qu'il y aura une suite et qu'elle arrivera vite, ouais.
D'accord, c'est le premier, hein, celui-là.
C'est le premier tome et il vient de sortir, ouais. C'est un premier tome qui est illustré aussi. Il y a des très belles illustrations, un peu dans le style gravures anciennes, gravures d'explorateurs, etc., de Tomislav Tomic.
D'accord. Et l'auteur, Alex Bell, il est connu ou...
Alex Bell, non. Enfin, elle est... c'est son premier livre traduit en France. Ah, et après, elle écrit des livres pour adultes en Grande-Bretagne. Et voilà. Et donc, c'est son premier livre jeunesse. Donc, elle n'est pas encore connue, mais je pense que c'est une saga qui pourrait tout à fait accrocher... beaucoup d'ados bah, dans le type, effectivement, Royaume du Nord, etc. C'est vraiment de très bonnes factures, très prenant et original. Il y a plein de choses, moi, que je n'avais jamais lues. C'est tout un univers. Elle ose aller vraiment dans l'imagination à fond. Quoi.
Ils aiment bien les écrivains anglais, tous ces univers-là.
Bah, en tout cas, ils excellent un peu là-dedans, quoi, c'est vrai. Mm. Entre Harry Potter, entre tout ça, pour inventer des univers à part, je trouve qu'ils sont... Même Roald Dahl, par exemple, voilà, c'est un auteur de génie anglais pour les enfants. Voilà. Je pense qu'en Angleterre, ils n'ont jamais dénigré la littérature jeunesse. Ils y ont toujours accordé une place importante.
Merci, Héloïse. Pauline, dis-nous, tu as un deuxième livre à présenter ?
Eh oui, et moi, c'est, pour le coup, ce n'est pas son premier roman jeunesse. Hein, mon auteur, c'est Mario de Muraille. Alors là, pour le coup, c'est The Auteur Jeunesse Française.
Elle est super.
Ouais. En plus d'être prolifique, elle est génialissime. Donc, si vous ne connaissez pas, allez-y, lancez-vous dans n'importe lequel de ses bouquins, quasiment. Il n'y a pas de souci, du plus petit au plus gros, allez-y.
Du plus gros au plus petit.
Voilà.
Et de côté. Enfin, oui, voilà. Tout est de très bonne qualité.
Tout est incroyable. Et Sauveur et Fils, dont je vais vous parler aujourd'hui, ne fait pas exception. Au contraire, c'est...
On parle d'un hamster, non ?
Et d'une baignoire.
Non, c'est vrai que la couverture m'a vraiment rebutée au début et je me suis lancée, j'ai pas pu m'arrêter. Enfin, je te laisse y aller, Pauline.
Mais j'aime bien la couverture.
Ne vous arrêtez pas à la couverture, non, la couverture si elle vous gêne.
Ça fait penser à celui qui fait des livres, le...
Tu vois qui je veux dire. Le gardinier.
Voilà. Ah non, pas du tout. Ah non, malheur.
C'est pas très très joli. Non, parce que sur la couverture, il y a hamster sur fond bleu dans une baignoire.
Voilà. Alors je pense qu'à la librairie, tu mets des autocollants sur la couverture et tu mets lisez-le, c'est bien.
Oui. Oui, mais n'hésitez pas, lisez-le, c'est bien.
C'est un super slogan.
Ouais. Donc bon, voilà. Donc Mario de Muraille, grosse attente. Bon, je me doutais bien que j'allais pas être déçue, mais là, pour le coup, c'est un véritable coup de cœur. Cette histoire, c'est celle de Sauveur Saint-Yves. Quand on s'appelle le Sauveur, c'est qu'on est un Antillais super grand, super baraqué, je l'imagine très beau mec. Je sais pas si elle le dit clairement dans le bouquin, mais mais en tout cas, je l'imagine. Forcément, on se sent un peu investi d'une mission. Hein, donc, évidemment, Sauveur Saint-Yves est psychologue. Il s'occupe notamment d'adolescents. Alors, il s'occupe d'un côté de Margot qui se scarifie. Il s'occupe de Ella qui a une phobie scolaire. Il s'occupe de Cyril qui a 9 ans et qui, comme sa mère le dit, pisse au lit. Et elle va lui foutre des couches si elle continue à baigner dans la pisse comme ça. Il suit tous ces jeunes. Et donc, on est là avec lui à les écouter, à écouter ses conseils à lui. Alors, déjà, il y a cet aspect de l'histoire où le talent de Mario Muraille, je crois, là-dedans, c'est l'histoire de jeunes qui souffrent. Et pourtant, on ne se sent pas malheureux, on se sent mal à des moments, on se sent un peu en souffrance. Mais globalement, le sentiment qui ressort du bouquin, c'est qu'on est bien après. C'est un bon moment. Elle a un œil super bienveillant, Mario Muraille, sur les jeunes. Comme je dis, c'est presque joyeux, mais c'est jamais moqueur, c'est jamais caricatural, c'est toujours compréhensif. Et pour le coup, je pense que c'est toujours juste. Je pense que que n'importe quel lecteur, jeune, moins jeune, se retrouvera dans ces personnages, les ados, les adultes, les parents, les enfants.
Et ça décrit ses séances de psy ?
Entre autres, oui. On le suit déjà d'un côté dans ses séances en tant que psy.
Fiction.
Pure fiction.
D'accord.
Pure fiction.
Je pense qu'ils ne doivent pas avoir le droit de...
Elle s'est peut-être entretenue avec des psychologues, j'imagine, parce que ça fait tout à fait... ça fait tout à fait...
Probable,
ouais. Mais voilà, Sauveur Saint-Yves, il n'est pas que psychologue. Mm-hmm. Sauveur Saint-Yves, il est aussi papa. Et c'est le papa de Lazare, qui a 8 ans. Alors lui, pour le coup, il est adorable. Il est mignon comme tout. Il fait des blagues super rigolotes d'enfants de 8 ans. Il a un super copain qui s'appelle Paul. Et alors, leur relation, elle est géniale. Parce que quand ils se voient, ils sont tellement joyeux. Les vrais copains, quoi. Ils sont deux copains et ils s'entendent très, très bien. Mais si Sauveur Saint-Yves est un très bon psychologue, je dirais pas que c'est un mauvais papa. Mais il est peut-être pas super doué pour discuter avec son fils. Il y a notamment, Lazare a perdu sa maman, la femme de Sauveur. Et puis, ils en parlent pas beaucoup. C'est pas vraiment un sujet de conversation. Lazare sait pas grand-chose sur ce qui est arrivé à sa maman. Et puis Sauveur rentre tard le soir du boulot, donc bon, il arrive et il fait toujours des trucs très bons. Hein. Il fait des nuggets, il fait des burgers, des lasagnes, des pizzas, etc. Mais il discute pas trop avec son fils, il écoute sa petite blague et au lit. Bref, leur relation est sympathique, on sent pas ni de conflit, mais finalement ils se disent pas grand chose. Donc là, dans cette relation, ça pêche un peu. Et du coup, Lazare, pour, j'imagine, se rapprocher de son père, se cache derrière une porte qui donne sur le cabinet de son père et écoute toutes les séances de son papa. Et finalement se rapproche un peu de son papa et de sa vie comme ça.
Il se pose aussi beaucoup de questions, du coup, parce qu'il entend plein de choses qui ne sont pas forcément
de son âge, mais qui sont quand même des problèmes d'ado, oui, comme lui, finalement.
C'est un peu triste, quand même, comme histoire.
Non. Il y a un fond, en fait, une matière peut-être un peu triste, mais ce n'est pas du tout le sentiment. C'est raconté avec une telle douceur, et puis alors avec un humour. On rit, on sourit, on est joyeux.
On sourit, d'où le hamster sur la pochette.
Ah oui, alors le hamster, je vous dirai pas pourquoi il y a un hamster sur la pochette.
Il y a quand même un lien. Des fois, il n'y a pas de lien. Hein.
Tu n'aurais pas le béguin pour Monsieur Sauveur Saint-Yves?
Ah, si, et si tu le lis, tu l'auras aussi.
Non, mais tu sais que j'ai des personnes qui ont 70 ans qui lisent la série de Sauveur et Fils, c'est pareil. Hein. On est toutes amoureuses de Sauveur.
On est un peu impressionnées.
Alors, quatre.
Oui, c'est le premier tome d'une série de 4 livres. Et croyez-moi, vous êtes très heureux quand vous finissez le premier de vous dire qu'il y a une suite et que vous n'allez pas perdre toutes ces personnes qui vous ont entouré depuis 2 jours.
D'accord, parce que lui, il nomme saison.
Oui.
Saison 1.
Ouais, elle appelle ça saison 1.
Enfin,
ouais.
Elle, pardon. Et donc, la suite, c'est les mêmes personnages, c'est la même histoire
ou on
part sur autre chose?
Alors, on va retrouver certains gamins, certains enfants qui sont au cabinet, qui continuent du coup leur thérapie, parce qu'une saison, c'est une année en fait. Et il y en a d'autres, du coup, voilà, leurs problèmes sont réglés. Il y aura d'autres personnages qui vont arriver dans la vie de psychologue de Sauveur. Et c'est vrai que quand on en parle, c'est vrai que c'est difficile d'en parler et pas donner une impression de triste. Mais c'est un livre, effectivement, mais qui fait énormément de bien et qui est vraiment bienveillant. Et Sauveur est bienveillant. Et on a... Enfin, c'est très touchant. Et c'est touchant, mais pas triste. Touchant, vraiment drôle aussi, quoi.
Et c'est pas plein d'espoir, comme ces livres mielleux. Voilà, c'est pas mielleux non plus. Elle a un vrai talent, je pense, pour parler des gens et de leur vie sans jamais partir dans des émotions trop extrêmes et trop à montrer. Vraiment, c'est un excellent livre.
C'est très juste.
Oui, très juste, très très juste.
On dirait qu'il y a une jolie mélancolie dans ce que vous dites.
Oui, peut-être un peu, ouais.
C'est possible.
Oui, mais voilà, vous allez sourire, vous allez rire, vous allez peut-être à certains moments être un peu ému. Mais vous allez vraiment passer un bon moment. Allez-y, peu importe l'âge que vous avez.
Outrepasser le hamster dans la baignoire sur fond bleu à paillettes.
Voilà, ouais.
Moi, ça me donne pas très envie hein, quand on me raconte l'histoire comme ça. Mais bon. non, mais c'est vrai. Enfin, c'est l'histoire de base.
C'est quand même rassurant par rapport à la couverture.
Oui, ou pas.
Mais tu vois,
tu peux tout imaginer qu'un hamster dans, oui, une dans une baignoire.
Quand tes enfants seront ados, donne-leur.
Oui, allez, n'hésite par pas.
Mmh. Même si toi, tu ne le dis pas, franchement.
Ça règle tous les problèmes. Quand tu
ça quand mes enfants... ça règle pas les problèmes, mais ça peut permettre de, bah, d'arriver à formuler certaines questions, mmh, ou d'aborder, mmh, certains sujets. En fait, mine de rien, ça peut... Mmh.
Il y a des lits magiques. Hein.
Ouais, au pire, si tu es, compte, si mais... tu es comme la maman qui crie sur son fils parce qu'il fait pipi au lit, tu peux aussi taper ton enfant avec le livre, vu qu'il est quand même assez gros comme livre.
Ah, c'est
tu
un peux pas gros
le
bouquin
entre toutes les mains.
Et c'est absolument pas démotivant, au contraire.
Ouais. Quelle maison d'édition ?
Ça doit être l'école des loisirs, oui.
D'accord. Et oui, quand mes enfants seront ados, je leur donnerai le vieux saltimbanque de Jim Harrison.
Et ainsi, ils seront
voilà
traumatisés.
Voilà ce que je leur donnerai, cher Popo. Tiens, mais je te prends ta place, Valérie, tu présenteras
mais
après
écoute,
moi. Mais
écoute, si je te donnais ma place, hein, ça me ferait plaisir.
Oh, ça me ferait plaisir que tu me la donnes.
Ah bah écoute, je te l'offre avec grand plaisir. Ouais. J'ai toujours envie d'entendre parler de Jim Harrison.
Oui, surtout que c'est son dernier livre avant sa mort qui est intervenu l'an dernier, me semble. Héloïse ?
Non, il y en a un qui est sorti posthume qui s'appelle Dernière Nouvelle.
Voilà, mais c'est son
il
dernier livre.
Il a fait un livre, peu son Jean
voilà.
C'est son dernier livre de son vivant.
Mais c'est pas
fini. Voilà, c'est son dernier livre de son vivant et son dernier roman. Parce que là, ce sont des poèmes après, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Jim Harrison, hein, non.
Non, Popo, je ne savais pas qu'il avait écrit du tout. Je pensais pas du tout qu'il
écrivait.
Non.
C'est pas George Harrison, hein, c'est Jim Harrison. Hein.
Ah bah non, alors tu vois, je ne connais pas.
T'as regardé avec Bédel.
Bah ouais, il me dit non.
Non.
Non. Ce n'est pas le même par bien contre que ça s'écrive pareil, hein, deux R, un S, Harrison. Si Jim Harrison, ce grand écrivain américain qui a très peu marché aux États-Unis, beaucoup plus en France, son livre phare, Héloïse, Mémoire d'automne.
D'Alva. Légende d'automne. D'Alva.
Légende d'automne.
Ah oui, Légende d'automne, oui.
Voilà, et qui a bien bien marché en France, qui vendait à l'époque 6000 exemplaires aux États-Unis, ce qui est rien, et qui a été un peu découvert dans, grâce à notre pays. Et donc, un mois avant sa mort, il a publié ce livre sous forme de mémoire, en fait. C'est un texte à la troisième personne, bien que ça soit des mémoires. Donc lui, il a expliqué qu'il a souhaité échapper un peu à l'illusion de réalité propre à l'autobiographie en écrivant à la troisième personne. Le livre commence avec une préface où il explique qu'il se retrouve avec sa femme et ses deux filles, sa femme avec qui il est resté, bien qu'il ait eu beaucoup d'aventures comme de nombreux écrivains américains, où il explique à sa femme et ses deux filles, surtout vers ses deux filles qui sont majeures, qui ont des enfants, qu'il compte écrire sa biographie en racontant un peu ses aventures extra-conjugales et sa femme. Donc ses deux filles crient en chœur non. Et le livre commence où il raconte ses histoires, ses aventures conjugales, extra-conjugales. Alors, il pleure quand ses filles disent non, il pleure, il se met à pleurer.
Oh, le repentir de merde.
Et
pardon,
en fait, il raconte quand même ses histoires, donc sa relation avec sa femme, ses maîtresses, ses souvenirs d'enfance. Il y a beaucoup de flashbacks, c'est un peu intemporel et c'est surtout au moment vers la fin de sa vie où il arrive plus trop à écrire, il perd un peu la tête, il arrive plus à avoir de rapports sexuels, ça lui met un coup, il pense à autre chose et on fait des flashbacks avec donc sa jeunesse, sa relation avec la religion. Il est catholique.
Il est croyant, lui, il était croyant.
Il était croyant sans plus. Disons qu'il y a des images qui l'ont un peu obsédé toute sa vie, comme la résurrection. Voilà, il croit en la résurrection. Pourquoi, il explique pas forcément. Mais ça, il y croit. Et en d'autres choses, il y croit pas. Il raconte aussi quand il est devenu professeur à l'université pour se payer à manger, un poste qu'il détestait. Et au final, on se rend compte au fur et à mesure qu'il le détestait, pas tant que ça.
Parce qu'il y avait des petites étudiantes.
Il raconte l'alcool, bien sûr, les paradis artificiels, les plaisirs de la chair et de la table. Il raconte ses passages à Paris, où il rêvait de venir à Paris, ce pays qui aime tant ses livres. Et donc, il voit Paris avec ses serveurs toujours souriants. Alors, je ne sais pas où il les a vus. ses couples qui boivent du vin à 9h du matin sur une terrasse de café en parlant. Alors, c'est idyllique pour lui. Donc, c'est vraiment un livre, mais vraiment extra, quoi. C'est très drôle, comme du Jim Harrison. La plupart du temps, il est dans le Montana, où il a acheté une ferme isolée, où il ne vit pas avec sa femme. Il vit dans une cabane à l'opposé du jardin, parce que maintenant, ça fait 70 ans qu'ils sont ensemble. Et ses aventures extra-conjugales et ses problèmes d'alcoolisme le, gonfle un peu sa femme, femme qui porte quand même au nu, hein, tout au long du livre. Donc il vit à part. Alors il se rappelle, un jour il voit un fermier qui a une truie qui est enceinte de 9 ou 10 porcelets. Il se rappelle que son oncle avait une truie, ça lui rappelle sa jeunesse. Donc il se dit mais je vous l'achète. Alors il n'y a pas trop d'argent, mais il achète la truie. Et pour faire passer ça à sa femme, il dit j'ai acheté un lama. Alors pourquoi un lama? Il dit mais si, c'est bien, ça va manger l'herbe du jardin. Et il attend que ça arrive, donc on suit les péripéties. Et tout d'un coup, la personne livre la truie, et donc sa femme voit ça. Elle lui dit mais t'es vraiment un salaud, et elle se barre. Et donc, du coup, il n'arrive plus à écrire, mais il regarde ses porcelets, il leur donne des noms, il les promène. Et il dit mais c'est pas grave, je peux plus écrire, mais je vois autre chose. Et donc c'est du Jim Harrison, donc c'est extrêmement bien décrit, c'est beau. Donc vraiment à conseiller, c'est très court, donc tout le monde, beaucoup de critiques ont dit oh là là, c'est pas du tout un chef-d'œuvre, on n'est pas habitué à ce que fait du Jim Harrison. C'est le dernier livre de sa vie où il revient sur sa vie, sur ce qui le tient à cœur, et c'est vraiment, on passe par tous les plaisirs, tous les sentiments dans ce vieux saltimbanque, je sais pas si j'ai dit le titre, qui est sorti chez J'ai lu, qui est assez court, qui peut se lire en une soirée, qui fait 153 pages et que je conseille à tout le monde.
Mais ça a l'air bien, on plaint sa femme, mais ça a l'air génial, quoi. Voilà.
Ouais, effectivement. Mais en plus, il adore sa femme. Bon.
Oui, après,
il y a pas trop d'histoires extra-conjugales, on y va par-ci, par-là.
Non,
il y en a. Allez, sur ce livre, il y en a 2, 3, voire 4.
À la louche.
Dans certaines, sa femme les retrouve avec un pistolet et lui pointe le pistolet dessus parce qu'elle trouve un mot où il donne rendez-vous à une de ses étudiantes et donc elle trouve un pistolet dessus. Il dit arrête, il me reste une semaine pour finir d'écrire un scénario. Il y a 100 000 euros à la clé. Il y a 100 000 dollars à la clé. C'est la seule excuse qu'il trouve. Donc elle tire quand même dans la bagnole. Enfin, c'est drôle. Et voilà, il raconte aussi c'est pour gagner de l'argent. Un peu comme les histoires de John Fante, l'appel des sirènes d'Hollywood, où il gagne de l'argent, mais il est
en
pas heureux parce que voilà,
il
écrit pas ses poèmes, il écrit pas ses romans. On voit
ça fait Tribukovski aussi, non?
Oui.
Un petit peu, sauf que là, c'est vraiment sur la fin de sa vie. Donc, même s'il y a des flashbacks quand il est jeune, il raconte pas ses histoires de beuverie quand il est jeune parce qu'on l'a toujours vu. C'est plutôt son intimité. Quand il est jeune, voilà, ses rapports avec sa famille, avec la religion, avec son travail, avec ses appels avec ses voisins, avec voilà, c'est pas trop. Là, c'est vraiment une vieille personne qui arrive plus à écrire, mais qui vit sa vie et qui se remémore un peu son passé de manière toujours assez drôle.
D'accord, bon, c'est bien.
Allez, Valérie.
Je pense que c'est un livre masculin.
J'ai
peu dormi, c'est pour ça.
Peut-être bien.
Moi, je me bats pour dire qu'il n'y a pas de genre dans le livre, qu'il n'y a pas de masculin ou de féminin.
Mais c'est la première fois que je trouve ça. C'est la première fois que je trouve qu'un livre a un genre. Mais bon, voilà.
C'est vrai que c'est étrange.
C'est étrange, voilà. C'est aussi étrange que les gens qui ont une passion pour les échecs.
Voilà, donc Alors même mes transitions deviennent pourries, il faut vraiment que je dorme mieux moi.
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
On est d'accord, j'ai eu fait mieux, je vais me repentir en vous présentant un livre absolument magnifique. Donc je remercie mon cher et tendre de l'avoir acheté pour l'offrir, puisque finalement il ne l'a toujours pas offert puisque c'est moi qui l'ai. Voilà, donc c'est... Je pourrais bêtement vous dire, je vais vous parler du livre Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Mais vous allez dire, ça va, Stefan Zweig, le joueur d'échecs, tout le monde connaît, l'histoire, on la connaît par cœur. C'est bon.
Excellent livre.
Excellent livre, on est d'accord. Mais ne serait-ce pas encore plus excellent de mettre ce livre en BD? Clin d'œil, Festival d'Angoulême. Voilà.
Mais tu l'as ta BD qui concourt cette année?
Bien sûr, je l'ai. Ma BD qui concourt cette année. Non, j'ai aucune idée.
Ça concourt pas du tout.
Ça concourt pas? Ça aurait dû, parce que ça méritait, et voilà. Non, c'est un super livre, donc le dessinateur, c'est ça? Voilà, c'est David Sala.
Parce que si c'est un sculpteur, c'est plus un livre.
Il pourrait, tu vois, et prendre après des photos de ses sculptures.
En pop-up terre cuite?
Ouais. Ah. Tu réhydrates, en fait. Tu mets de l'eau et ça réhydrate la sculpture.
Pas mal, ça.
Ouais, c'est vachement bien. Et donc, je pensais avoir mes notes sur David Sala dans le livre, mais je ne sais pas.
De toute façon, il te reste 2 minutes, sachant qu'Héloïse a encore un livre à présenter.
De façon très courte, le livre est magnifique.
On peut parler plus longtemps.
De façon très longue, le livre est absolument magnifique.
Héloïse, la stagiaire, n'a pas fini son Cabernet Sauvignon, donc on a un peu de temps.
Oui, par contre, Ludo, je voulais te dire aussi le vin pour les stagiaires, je ne suis pas sûre.
Ah, mais c'est celle d'Héloïse, de stagiaire.
Oui, mais bon,
c'est pas la mienne.
Elle est mineure. Bref, donc. Je vais en revenir.
Paraît qu'avec Diana, ça y va.
Emilia
le week-end.
Ouais. Oui, le mais on a dit, parle pas des photos.
Ah, pardon.
C'est pénible.
Okay. On dit rien.
Donc, David Salin, donc, qui a dessiné le livre, qui a adapté donc, le livre de Stefan Zweig, Le joueur d'échecs, bah, là, il a réussi une performance, moi, qui m'a bluffé, qui m'a scotché. Les dessins sont absolument magnifiques, retracent absolument l'ambiance du livre. Le livre, bon, pour le résumer de façon très courte, ça se passe sur un bateau, Seconde Guerre mondiale, un bateau qui fuit donc vers Buenos Aires, avec à son bord tout un tas de personnes dont on ignore plus ou moins le passé, la provenance. Et il y a un homme tout à fait mystérieux, donc Mirko Zventovic, qui est un éminent joueur d'échecs, mais qui est réputé pour être un imbécile notoire. Et on trouve un passager écossais, McConnor, qui lui aime jouer aux échecs, se prend pour un très bon joueur, mais qui est en soi aussi... qui par contre lui est médiocre en échec et qui va essayer de provoquer des parties avec ce mystérieux Mirko Zventovic. Donc il commence à jouer, l'Écossais qui pense gagner perd, enfin voilà, arrive un troisième personnage hyper mystérieux, Monsieur B. Et Monsieur B, lui, ben, un peu timide, un peu effacé.
C'est Monsieur B qui m'a offert le vieux saltimbanque.
Ben, c'est peut-être la même personne, renseigne-toi, méfie-toi.
Je lui ai demandé.
Et ce Monsieur B ben, se met à jouer aux échecs avec Mirko Zventovic. Et là, en fait, c'est un peu une métaphore sur les belligérants qui se trouvent sur le continent européen et les belligérants du jeu d'échecs sur ce cargo. Ça, c'est pour la petite histoire, pour le dessin. Pratiquement dans toutes les pages, en fait, David Salah a représenté des motifs un peu carrés pour qui font appel, enfin qui rappellent le jeu d'échecs.
On dirait du Magritte un peu.
Oui, un peu. Ouais. Un peu. Les personnages, en fait, ont vraiment cette tête-là. Ils font passer des émotions, mais c'est assez incroyable. Et chaque dessin est une œuvre, en fait. C'est, on peut prendre n'importe quelle, comment on dit, je sais pas, de bulle, page,
case.
Planche, case de la BD. Ça peut être une œuvre qu'on expose dans son salon.
Et c'est vrai que c'est un style qui fait très art de l'époque, c'est-à-dire art moderne. Ouais, quoi. C'est vrai, au niveau des couleurs, des formes, ça fait très.
Ça fait presque le Gatsby. Enfin, c'est vraiment.
Oui, aussi, ouais.
On est dans cet esprit-là.
Dans cette esthétique-là.
Ouais. Du coup, c'est gagné. Bah, bravo David. Hein. Parce que c'est peut-être pas évident une œuvre aussi connue que celle-là de mettre du dessin dessus. Et j'avais un troisième livre qui était.
Il garde la même histoire, il s'éloigne pas.
Oui, non,
c'est
il
l'histoire de Zweig de A à Z.
C'est pas le texte intégral.
Oui, j'imagine.
Autre œuvre que j'avais, c'était La vie devant soi de Romain Gary, qui est par contre l'œuvre intégrale et qui a été illustrée. Bah, petite déception sur le dessin, mais peut-être parce que quand on lit un livre, on se fait une image.
Oui, déjà.
Moi, j'avais une image du joueur d'échecs. Elle n'était pas la même que celle-ci, mais celle-là m'a accrochée. Je me suis dit, c'est mon image qui n'était pas la bonne. C'est ça la vraie image qu'il faut avoir du livre.
Et c'est accessible à partir de quel âge ? Vous me posez la question.
Ça peut être ado.
Oui, ado.
Il n'y a rien de choquant.
Ouais. Après, il te faut avoir une base sur la Seconde Guerre mondiale quand même, pour comprendre pourquoi tous ces gens se barrent. C'est pas forcément la croisière s'amuse à la base, mais... Voilà.
Oui, et c'est un aller sans retour pour Zweig.
Plus ou moins, voilà.
En plus.
Oui, c'était. En fait, c'est le. Voilà, c'est. Ben, comme, tu vois, c'est sans transition, puisque Jim Harrison, c'est le livre que tu as présenté, c'est ton dernier livre avant de mourir. Là, c'est le dernier livre que Zweig a écrit avant de se suicider. Voilà. Oui. Considérant qu'il avait fait le tour de tout ce que ce monde pouvait lui apporter. Voilà. Donc, c'est un grand livre à la base, mais avec la BD, ça grandit encore plus le livre, et c'est sans fioriture, sans.
Très bien,
sans fausse note,
mais pour les gens qui ont la flemme de lire effectivement Le joueur d'échecs, qui est tout petit,
qui est petit, voilà, c'est une grosse nouvelle, c'est pas un roman, donc
ça se lit en très peu de temps. Ouais. Mais pour ceux que ça embêterait, voilà, de lire un roman, qui lisent la BD, parce que on a une belle idée de ce qu'est l'écrit de Stefan Zweig.
Puis il y a des pages entières où il y a une ligne d'écriture. C'est pas des bulles, c'est des sous-titres d'images. Et c'est vraiment très très beau. Et chaque planche, même quand c'est un zoom sur les toilettes, c'est beau. Chaque planche a des belles couleurs, et les planches où c'est que justement qui ne font pas rappel aux joueurs d'échecs. Donc toutes ces planches là, il y a du quadrillage très rappel à l'échec, au jeu, à l'échiquier. Les pages où c'est que ça ne parle pas d'échecs, il y a des fleurs, il y a des motifs autres. Et ça, mais on voit qu'il l'a. Qu'il a réfléchi, il y a un petit bonus à la fin du livre, il y a tous ces croquis. Il y a tous ses croquis et il y a son travail préparatoire où il décrit voilà le lieu, le joueur d'échecs sur le pont d'un paquebot, nanani nanana, et c'est super de voir l'évolution entre ces ces esquisses et le produit
et
fini.
Et le rendu fini.
Ah, c'est fabuleux.
Super.
Super.
Ouais, ouais, vraiment un très beau livre.
Allez, on peut déborder un peu, Héloïse.
Tu crois, ouais ?
Oui, allez. Soyons fous, c'est la première de 2018.
Bon,
oui.
Alors, rapidement, du coup, je vais vous parler de Jour brûlant à Key West, de Brigitte Carnel. Et donc, c'est un roman chez Flammarion qui est sorti à la rentrée d'hiver, là, donc en janvier. Donc, pour faire court, vous connaissez tous Françoise Sagan. Voilà, donc Françoise Sagan qui part faire la promotion de Bonjour Tristesse aux États-Unis, qui a des rendez-vous tous les jours, des dédicaces, des interviews, des machins. Elle est fatiguée. Et un soir, dans sa chambre d'hôtel, elle reçoit, alors qu'elle en a marre, qu'elle n'a plus envie de sortir de son hôtel, elle reçoit un appel du grand... J'ai oublié son nom. Si, c'est bon. un appel du grand auteur américain Tennessee Williams. Oui, allô, c'est Tennessee. Est-ce que tu veux venir passer quelques jours à Key West, en Floride, avec moi, te reposer? Je suis avec ma grande amie Carson McCullers, qui est aussi une grande auteure américaine, une grande auteure classique magnifique. Donc voilà, il invite Françoise Sagan à passer quelques jours qui deviendront un mois. En fait, elle va rester un mois avec eux, dans leur maison au bord de la plage. Une ambiance électrique, une ambiance à la fois une ambiance artistique, parce qu'on a trois grands auteurs là qui se retrouvent pendant un mois dans une maison au bord de la mer, avec de l'alcool, avec avec des tensions aussi, des tensions avec des égos, avec aussi voilà une même façon de vivre, une certaine nonchalance. On se lève quand on veut, on se lève, on prend un verre de martini, après on écrit tous ensemble, etc. Voilà, une ambiance vraiment hors du temps. Ça s'est vraiment passé. Et voilà, c'est un petit bout d'histoire. Moi qui adore Françoise Sagan qui est une auteure qui m'a vraiment touchée quand j'étais ado, quoi. Et donc là, de voir ce petit bout d'histoire romancé, cette petite pépite là, c'est hyper agréable. Elle, Françoise Sagan, elle a écrit une petite nouvelle aussi sur ces quelques jours, qui n'est pas pareil. Effectivement, elle dit pas tout. Enfin voilà. Et donc c'est une parenthèse en fait, une parenthèse artistique qui est hyper intéressante.
Comment l'auteur s'est procuré les informations sur...
Alors en fait, elle a rencontré apparemment l'amant de Tennessee Williams, enfin le compagnon de Tennessee Williams, qui était un observateur, en fait lui qui n'était pas du tout écrivain ni rien, et qui a observé en fait ce séjour-là, cette venue de Françoise Sagan. C'est Frank Merlo, c'était un peu un acteur américain raté, et donc voilà, elle a rencontré Brigitte Carnel, je pense, Frank Merlo, sur la fin de sa vie, et qui racontait en fait un peu cet épisode-là. Et voilà, ça donne envie de lire Tennessee Williams, de lire Carson McCullers, de relire Sagan. C'est vraiment un beau portrait, pas du tout que positif ou quoi, un beau portrait objectif de ce que peuvent être en fait des écrivains, quoi, des auteurs qui sont un peu en souffrance, qui sont aussi un peu extravagants, enfin voilà, tout un tas de côtés géniaux. Voilà.
Ça donne envie, ouais. Un petit bout d'histoire.
Ouais.
C'est ça. Ok, très bien. On a fini. Plus personne n'a rien à présenter. Non, c'est bon.
On est bon.
On est bon.
Héloïse a-t-elle changé d'avis? Est-ce qu'elle souhaite dire quelque chose? Non.
Non, toujours pas. Ok, tant pis. On n'a pas le thème de dans deux semaines, j'imagine.
Si.
Incroyable. Alors.
Alors, dans deux semaines, on va parler, attention, parce qu'il le découvre en même temps que vous.
Bah oui.
On va parler des origines du monde à travers la religion, de religion, de Dieu.
De religion bretonne.
Et dans quatre semaines, on parle d'Amérique latine.
Génial.
Allez, super. On vous donne rendez-vous. Allez, on va quand même. Allez, à bientôt. On va faire dire au revoir à notre stagiaire Héloïse. Écoutez bien, c'est parti.
Au revoir.
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.